Le jour d'après, il se passe quoi ? C'est toujours le lendemain que l'on réalise, que l'on sait, que l'on mesure ce qui s'est passé au réveil. Un sentiment de soulagement, de joie, de tristesse, de lassitude, au choix. Et c'est le jour d'après que l'on sait si ça peut durer, que ça va durer des années.
Pascal Paradou.
Il y a des lendemains d'élections et des lendemains d'exil. Se réveiller et le monde a changé ou pas. Bonjour Omar Youssef Souleymane.
Bonjour.
Après Le petit terroriste et Le dernier Syrien, vous publiez un nouveau roman, Une chambre en exil, où vous racontez votre histoire de jeune prof d'arabe à la recherche d'un lieu pour goûter le silence d'une nouvelle vie. Mais avant de parler de ce livre, il faut en revenir à ce jour où vous débarquez en France. Est-ce que vous vous souvenez ?
Très bien. Comment je peux oublier ce jour ? C'était incroyable, le jour de mon arrivée dans mon nouveau pays, où, vous savez, avant d'arriver dans n'importe quel territoire, on a ce que l'on appelle le cliché sur un pays. Donc, quand j'étais dans l'avion depuis la Jordanie et Amman, la capitale de la Jordanie, et Paris, j'imaginais tout le temps qu'est-ce que je vais trouver en sortant de l'avion, en sortant de l'aéroport Charles de Gaulle. Parce que vous savez, l'image de la France au Moyen-Orient, on pense à la littérature, on pense au théâtre, on pense à la liberté d'expression, on pense à la lumière et la joie, tout le monde danse dans les rues. Donc ça, c'est l'image, avec le fromage et le vin, bien sûr. Ça, c'est essentiel.
Et les musées aussi, un peu.
Et les musées, oui, bien sûr. Mais en sortant de l'aéroport, j'ai pas trouvé tout cela. C'était à 4 heures du matin. J'ai trouvé le RER B qui m'attendait. Donc, vous savez, toujours, il y a et le cliché et ce qu'on trouve en réalité. Mais tous les détails de cette journée sont inoubliables, bien sûr.
Mais vous saviez qu'une nouvelle vie commençait pour vous ?
Non. En fait, parce que quand on est arraché de son propre territoire, on ne pense pas beaucoup à l'avenir. On pense juste au moment. On pense seulement à sauver sa peau. Donc, j'attendais au début le moment de retour en Syrie parce que c'était inimaginable pour moi de vivre en France, d'apprendre la langue française et de me retrouver comme un citoyen français à l'avenir ou rester en France ou trouver une nouvelle vie en France. Mais c'est souvent le hasard qui nous conduit en tant exilé, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme dit Paul Éluard.
Et vous arrivez, vous ne parlez pas un mot de français, et vous racontez d'ailleurs dans ce livre que les premiers mots que vous avez appris sont des jurons.
Tout à fait. En fait, si je disais à l'époque bonjour, bonsoir, liberté peut-être seulement, mais les premiers mots, j'avoue que j'ai appris à Paris, c'était putain, fiché, j'en ai marre, désolé de le dire clairement. Et j'avoue ce que tout le monde les disait tout le temps dans la rue. Et je savais pas ce que ça veut dire, mais je les répétais parce que j'avais l'impression que ce sont des mots très essentiels de la langue française. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande s'ils sont essentiels ou pas.
Alors, ce jour de votre arrivée, c'était le 24 avril 2012, c'est-à-dire on est très précisément il y a 10 ans. Et 10 ans après, vous votez pour la première fois à l'élection présidentielle, puisque vous venez d'obtenir votre nationalité. Avec quel sentiment vous votez ?
Justement, en fait, ça fait 10 ans et un mois, parce que c'est arrivé le 24 mars 2012 en France. Et avoir voté 10 ans plus tard, par exemple, justement hier, je suis allé au bureau de vote et j'ai choisi mon candidat, Emmanuel Macron. Et en sortant du bureau, j'avais tellement envie de revenir pour revoter et revoter et revoter sans fin, pour rattraper toutes les années où je ne pouvais pas voter. C'était aussi le sentiment de premier tour. Vous pouvez imaginer quel sentiment pourrait avoir un Syrien qui a passé sa vie dans un pays dirigé par un régime dictatorial et à l'étranger, dans son nouveau pays, après avoir une nationalité, il vote, c'est-à-dire il participe à l'avenir d'un pays. Ça, on ne l'a jamais reconnu en Syrie. Ce qui est paradoxal, c'est que les Syriens, on a perdu des milliers, même des dizaines de milliers, et même des centaines de milliers de personnes pour arriver à ce moment-là, pour vivre en sorte de démocratie, de séparation entre les pouvoirs pour choisir son président. Donc ici en France, je me sens vraiment privilégié et j'ai de la chance d'avoir voté.
Mais entre hier et aujourd'hui, est-ce que le monde a changé pour vous ?
En fait, je ne crois pas beaucoup que le monde change. Je crois que c'est nous qui changeons, par une manière ou une autre, individuellement. C'est moi qui ai changé, beaucoup. Parce que, et c'est ça ce que je l'appelle l'exil. C'est-à-dire, entre le moment de mon arrivée en France et aujourd'hui, je suis absolument une autre personne. Aujourd'hui, je suis français. Les gens aussi là-bas, en Syrie, ont beaucoup changé. Dans ce contexte, l'exil ne finira jamais parce que je ne reconnais plus la Syrie que j'ai quittée il y a 10 ans. Mais si vous voulez dire qu'au niveau politique, en France, je ne crois pas que ça, beaucoup de choses ont changé depuis.
Mais pour vous, est-ce que vous avez cessé d'être réfugié en mettant un bulletin de vote dans une urne ? Être réfugié, c'est-à-dire avoir cette épine dans le cœur, écrivez-vous.
Justement, parce que je préfère le mot exilé, parce que exilé, ça veut dire on est exilé à vie. Même quand on rentre sur son propre territoire et on trouve tous ces changements dans son pays, on trouve à quel point les gens ont changé, nous aussi on a changé. Il y a toujours une sorte de distance entre nous, entre ici et là-bas. Et donc, c'est bien sûr, c'est douloureux d'être exilé, ce n'est pas facile, mais c'est aussi très riche. Être exilé crée une sorte de tolérance parce qu'on vit entre deux cultures, entre deux langues, entre deux mondes. Ça veut dire, vraiment, je peux dire que j'ai de la chance d'être exilé malgré tout.
Omar Youssef Souleymane, vous venez d'ailleurs, d'Amas, la Syrie, dans cette émission une fois par semaine, pendant quelques minutes. Nous allons ailleurs aussi, le temps d'un coup de fil. Bonjour Pablo Fante.
Bonjour.
Vous êtes poète, traducteur, vidéaste et vous organisez à Santiago du Chili une manifestation baptisée Poesia Viva, ce qui veut dire poésie vivante, et c'est une histoire de rencontre.
Tout à fait. C'est un dialogue entre des poètes de langue française et des poètes du Chili. C'est un projet qui incorpore aussi une publication bilingue de traduction des poètes de langue française.
Mais comment l'idée est née ?
C'est en fait l'Institut français du Chili qui m'a invité à participer à ce projet. Leur idée était de diffuser de la poésie contemporaine francophone en faisant dialoguer la jeune génération de poètes chiliens avec des poètes de langue française et différents types d'écriture.
Donc ces rencontres entre poètes français ou francophones et chiliens ont été filmées. La diffusion a commencé sur les réseaux sociaux. Ils parlent de quoi ces poètes ?
Eh bien, nous avons choisi 6 poètes de France, d'Algérie et de Haïti qui parlent de différentes choses comme par exemple l'urgence écologique actuelle ou des voix liées à un discours féministe, à l'urgence de ce discours. Et qui permettent d'avoir accès à différentes voix de France au Chili, traduites par des poètes du Chili, qui donc permettent de faire un projet de coopération qui relie les deux pays, et tout cela en partenariat avec le Festival international de poésie de Santiago, et notamment la CAP Poésie de Toulouse, qui a aidé à faire le choix des poètes.
Donc, deux aspects, les films sur les réseaux sociaux et la traduction des œuvres dans un livre. Et si je vous suis bien, Pablo Fante, il n'est pas question de parler que de poésie. La poésie embrasse le monde.
Exactement. C'est la poésie contemporaine qui est complètement insérée dans le monde actuel. Bien sûr.
Et parmi les auteurs, vous citiez tout à l'heure une voix haïtienne. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup à RFI, c'est l'auteur Jean d'Amérique, qui a eu aussi le prix RFI Théâtre. Alors, c'est un projet pour vous de résistance ou au Chili, finalement, la poésie tient le haut du pavé et il y a une forme d'évidence à entendre des poètes.
Effectivement, au Chili, la poésie est très importante. Vous savez, le Chili, c'est une terre de poètes avec deux prix Nobel de poésie, mais au-delà de ça, la poésie contemporaine est très très vivante. Le milieu est très actif et c'est vraiment passionnant de participer du milieu de la poésie au Chili. Et donc, dans ce milieu-là, on attend vraiment d'entendre la voix des poètes français contemporains qu'on ne connaît pas.
Donc la poésie, c'est aussi de la découverte. Merci beaucoup Pablo Fante. Et le tout est à voir et à entendre, bien sûr, sur le site de l'Institut français du Chili. Bonne journée.
Exactement, merci beaucoup, au revoir.
Tout a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée.
Walter Astral sur RFI avec ce titre « L'eau ». Pour l'écrivain Omar Youssef Souleymane, tout a commencé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle il y a 10 ans, puis de chambre en chambre, dont celle qu'il décrit dans son nouveau roman, une chambre en exil. 18 mètres carrés avec fenêtre, très important la fenêtre, une chambre pour goûter, dites-vous, le silence. C'est ce qui vous manquait le plus ?
Ce qui me manquait, l'indépendance. Oui. Parce que surtout quand on est exilé et surtout quand on travaille dans l'écriture, peut-être on a besoin de cette indépendance, d'être isolé du monde entier, fermer sa porte et garder même un espace de 10 mètres carrés et pour que cet espace soit à soi. Vous voyez. Et c'est là où j'ai trouvé, j'ai commencé de trouver l'inspiration de l'écriture de ce roman, Une chambre en exil.
Roman qui raconte une autre chambre et des mésaventures à Bobigny dans le 9-3, comme on dit, donc dans la banlieue parisienne, et dans les administrations françaises pour avoir vos papiers. Et c'est absolument effrayant. Et je pense que vous ne racontez même pas la totalité de ce que vous avez vécu.
C'est toujours le cas, c'est toujours le problème. Et ce problème, on ne peut pas, il n'y a pas de solution. Parce que c'est Kafka. Vraiment Kafka. Et même les Français qui souffrent des papiers administratifs, même quand on maîtrise la langue française, il y a des papiers administratifs qui nous ressemblent à la langue chinoise, peut-être, on ne comprend rien de tout. Et ce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Mais à l'époque, c'était encore plus compliqué parce que je ne maîtrisais pas la langue française. Et en temps réfugié, c'est encore beaucoup plus compliqué, je crois.
Et puis on vous demande des photos, c'est jamais la bonne, les adresses ne coïncident pas.
Ça finira jamais.
Ça ne va jamais. Alors heureusement, vous faites des rencontres dans cette période, plus ou moins importantes. Il y a la voisine, Violette, et puis l'imam du quartier de Bobigny. Et la fenêtre est importante parce que la fameuse Violette, vous la matez depuis votre fenêtre.
Tout à fait. Vous savez, la fenêtre, c'est un symbole de la liberté de voir le monde à l'extérieur, le monde qui transparaît, oui, par une manière ou une autre. Donc cet exilé, il voit sa voisine. D'ailleurs, il tombe sur, il arrive dans cette ville où il ne connaissait rien du tout. Tout ce qu'il souhaite, c'est trouver une nouvelle vie, d'oublier la violence, la guerre, et l'exil même, trouver un travail et peut-être trouver l'amour de sa vie. Donc le lendemain, il voit cette femme brillante, volontaire, libre, forte, à travers sa fenêtre. Il y a ce dialogue d'une fenêtre à l'autre. Donc en suivant Violette, il tombe sur... parce qu'il trouve que Violette fréquente une salle dirigée par un imam radical de la ville. D'ailleurs, il est choqué dès le début parce qu'il trouve tout ce qu'il a imaginé, tout ce qu'il avait imaginé de la France, il le trouve pas à Bobigny. C'est-à-dire, il tombe sur une fille de 9 ans qui est voilée, il trouve sur les mecs barbus, sur les imams. Et petit à petit, en discutant avec cet imam que Violette fréquente sa salle, il trouve, l'imam, il le découvre, il le balance, disons, son projet de créer une loi islamique, même un état islamique en France. Et ce qui m'est arrivé, en fait. C'est un roman d'inspiration autobiographique.
Oui, parce que ce qui vous frappe, ce qui frappe le personnage, c'est justement l'islamisation du quartier. Et vous racontez cet imam qui gère, qui a la main sur l'ensemble du quartier, les dealers compris, et qui veut donner une image respectable en ouvrant notamment les dîners de l'Iftar, etc., mais qui appelle à la croisade.
En fait, je crois que c'est ce que l'on appelle le soft power des islamistes, qui sont beaucoup plus dangereux que les terroristes. Ce sont des imams intelligents, doux, sympathiques. Ils ne parlent jamais d'une manière radicale, ils n'invitent jamais, ils n'appellent jamais à la haine. Mais ils ont leur projet qui est sur le terrain, en préparation. Et je trouve que c'est beaucoup plus dangereux quand même, des mecs qui vont faire juste seulement des attentats.
Mais alors, vous avez voté Macron, vous nous l'avez dit, Omar Youssef Souleymane, mais en même temps, ce récit de l'islamisation de la banlieue parisienne, Marine Le Pen ne le renierait pas.
Absolument que non. Quand on parle de la radicalisation, on n'est pas du tout les porte-parole de l'extrême droite où on parle de ce que Marine Le Pen dit. Ce n'est pas notre problème que l'extrême droite dit ce problème, mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Parce que vous savez, la nature a l'horreur de vide. Et malheureusement, la gauche, ou la majorité de la gauche française, y compris les intellectuels de la gauche française, ont abandonné cette banlieue aux imams pour récupérer ce terrain et devenir les porte-parole de certains quartiers populaires en France. Est-ce que l'extrême droite profite aussi? Donc nous, quand je dis nous, les gens qui viennent de cet enfer qui s'appelle la radicalisation ou l'islamisation, on ne parle pas dans le contexte français. On parle car on a vécu cet enfer et on découvre ici cet enfer à nouveau. Et c'est tellement choquant. Et ça, c'est l'idée de ce roman, Une chambre en exil.
Alors, les scènes du roman m'ont fait penser à un film qui a fait lui aussi beaucoup parler de lui, de l'Ajli, Les Misérables, flics font une descente chez l'imam qui gère justement tout le quartier depuis son kebab.
Tu joues à quoi, toi? Tu veux faire le shérif, c'est ça? Tu sais que si je passe un coup de fil, t'es fiché S? Je ferme ta boutique de merde, là? Ta mosquée de garage, là, avec tes mongols, là? Terminé.
Hé, on peut parler? Salah, on peut se parler?
Viens avec moi.
On s'est fait déborder, ça a été trop vite. Et je te jure, personne ne voulait lui faire de mal, mais il y a un coup de flashball qui est parti involontairement. C'était involontaire. Crois-moi.
Involontaire? Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. On vous confie des armes, vous savez pas vous en servir. La faute a pas de chance.
Non, c'est pas ce que je te dis. Mais si cette vidéo, elle sort, ça va foutre le feu, c'est sûr. Accident ou pas accident.
Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Omar Youssef Souleymane, ce qui est raconté dans ce film, vous l'avez vécu en partie à Bobigny, en fait, ce que vous racontez dans ce roman, Une chambre en exil.
Tout à fait.
Vous définissez comme apostat. C'est un mot fort.
Je ne sais pas si c'est vraiment fort ou non, mais je trouve que c'est très difficile d'être apostat parce que selon la loi de la de charia, les apostats sont condamnés à mort. Et c'est-à-dire que je suis condamné à mort dans la majorité des pays arabes seulement parce que j'ai fait mon propre choix. Seulement parce que j'ai dit le seul ennemi de l'islam, c'est l'islam lui-même. Ce que je disais toujours depuis quand j'étais en Syrie. Seulement parce que je ne croyais plus à cette manière de réfléchir, cette manière d'obliger les autres à croire ce qu'on avait envie à notre propre pensée. Et seulement parce que j'ai dit que le texte coranique n'est pas un texte sacré, rien n'est sacré dans la vie, que la vie elle-même. Et on a le droit de critiquer le Coran, ce que je disais depuis toujours, depuis quand j'étais en Syrie. Donc je suis considéré comme apostat, mais je préfère dire, j'aimerais bien être un homme libre, ni apostat, ni athée, ni croyant. C'est beaucoup mieux, je pense.
Alors ça, c'est votre point de vue sur la religion, Omar Youssef Souleymane, mais vous avez aussi un regard acéré sur la langue arabe, parce que vous dites que l'arabe est lié à la parole d'Allah.
La langue arabe était toujours opprimée, malheureusement, par la religion. La langue arabe, c'était une très belle langue, très riche, et c'était la langue de la civilisation arabe et la poésie arabe. Avant l'islam, des centaines d'années avant l'islam. Et donc, une fois que le texte coranique était diffusé aux presqu'îles arabes, une fois qu'on a considéré la langue arabe comme une langue sacrée, parce qu'il y avait le Coran, et cette langue n'avait pas de la chance de progresser avec le temps. Mais elle a toujours gardé sa beauté, sa musique linguistique. Mais je crois que la langue arabe est beaucoup plus importante de n'importe, et beaucoup plus ancienne de toutes les religions.
En tout cas, la langue arabe peut dire des choses sur la société arabe. C'est une anecdote, mais elle m'a frappé dans votre livre. Vous racontez que dans le jeu d'échecs, la reine, c'est-à-dire la pièce, la reine, n'existe pas en arabe.
Non, n'existe pas en arabe dans des sociétés misogynes qui considèrent les femmes au second degré, disons, dans la société, et aussi où les femmes étaient toujours très opprimées dans ces sociétés, obligées d'être mariées avec tel homme, obligées d'être voilées. Et c'est toujours la faute des femmes dans ce type de société. Donc, vous voyez, les jeux, c'est reflet. C'est comme un reflet de la manière de penser d'une société. Donc, dans le jeu d'échecs qu'on jouait depuis quand on était petit, il n'y a pas de reine, donc on l'appelle le premier ministre. Le paradoxe là-dedans, c'est que dans le jeu d'échecs, le mot « mat », à la fin de n'importe quel jeu d'échecs, ça veut dire mort, qui est considéré ou utilisé dans toutes les cultures, toutes les langues, c'est un mot arabe.
Parlant, écrivant en français maintenant, est-ce que vous avez le sentiment d'être passé dans un autre univers ?
J'ai l'impression d'être réfugié ou exilé dans la langue française, mais pas dans la géographie française. C'est-à-dire, j'ai l'impression de trouver une nouvelle identité, une nouvelle nationalité, un nouveau pays à travers la langue. Et c'est un sentiment incroyable. Écrire dans une autre langue, c'est une aventure aussi, où chaque jour, on trouve des nouveaux vocabulaires, on essaie d'intégrer la mémoire linguistique de son enfance, de sa langue maternelle, dans la nouvelle langue de la terre d'accueil. Donc je suis très content de cette aventure quotidienne sans fin.
Omar Youssef Souleymane, vous racontez dans votre roman Une chambre en exil, comment vous avez échappé donc à votre univers en faisant notamment la rencontre de la littérature, en découvrant un jour, dans une librairie de Damas, un recueil de poésie de Paul Éluard, et j'aimerais que vous nous lisiez la suite.
Avec plaisir. Après le bac scientifique, n'étant pas à l'aise dans l'étude des sciences, le lycée n'était qu'un enfer pour moi. Je me suis inscrit en littérature arabe à l'université et j'ai annoncé à tout le monde que je ne croyais plus en leur Dieu, en leur Coran, et qu'un poème d'Éluard avait beaucoup plus de valeur à mes yeux que tous les propos de Mahomet. Ce poète est devenu l'exemple qui m'a permis de ne pas emprunter le chemin de la radicalisation, du salafisme, comme mes parents. Il m'a aidé à remplacer l'interdit par le désir, la violence par l'amour. Abandonnant les injonctions du prophète, j'ai choisi d'y substituer les rêves du poète.
Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Extrait d'une chambre en exil et extrait de Liberté, poème de Paul Éluard et lu par Paul Éluard, poème qui fut écrit pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'occupation allemande. Pourquoi ce poème vous a-t-il à ce point frappé? Parce que vous avez dû le lire en arabe.
J'en avais besoin en fait de ce poème. J'en avais besoin aussi de ce grand homme. Pour justement trouver l'exemple de ma vie, trouver un autre discours, une autre parole poétique à la place de tout ce que de ce discours on était éduqué quand on était petit. Bien sûr, liberté parce que c'est essentiel dans ma vie et tous les choix que j'ai appris c'était selon de ma propre liberté personnelle. Et vous savez, être libre c'est très difficile. C'est-à-dire on est face au monde entier selon de ses propres choix, mais suivre les tabous. Et vivre dans l'interdit, c'est très facile, mais ce n'est pas une vraie vie.
En tout cas, c'est un poème et un poète qui vous accompagne aujourd'hui encore.
Je crois qu'il va m'accompagner éternellement. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, dans ma chambre, en exil, réellement, ce n'est pas seulement dans le livre, j'ai toujours le poème de Loire, Liberté, calligraphié dans le mur, sur le mur. Et je dois l'avoir chaque jour en réveillant. Sinon, je ne passe pas une bonne journée.
Est-ce que, finalement, le premier exil pour vous n'a pas été, avant même de franchir les frontières, de venir en France, n'a pas été la littérature?
Justement, vous savez, c'est par une manière ou une autre, d'une manière ou une autre, à cause de la littérature, j'ai quitté la maison de mes parents parce que je ne voulais pas continuer mes études scientifiques. C'est-à-dire, l'exil, la littérature, c'était la raison pour laquelle j'étais exilé, mais aussi était le pays ou le refuge. C'est ça le paradoxe de la littérature. Donc, bien sûr, c'était mon premier exil. Mon deuxième exil, c'était ici en France. Et peut-être il y aura un troisième ou quatrième exil. Mais vous savez, quand on devient habitué à l'exil, on joue avec l'exil, ou même on danse, comme on dit, on danse sur la misère. Et on garde toujours l'espoir. Et ça, cela nous rend beaucoup plus fort. Et surtout quand on trouve ce que l'on appelle la littérature, on se réfugie là-dedans. On trouve son pays éternel à travers la création littéraire. L'exil, dans le sens de douleur ou de la peine, perd son sens. C'est-à-dire, ça y est, on est déjà n'importe où, on n'est pas perdu, on a que certains pays.
Oui, vous l'avez dit, c'est une chance, c'est une force d'être exilé. Et dans le livre, vous le dites, ça donne plusieurs vies. Et vous avez par exemple celle de la mémoire et celle du présent. C'est-à-dire que vous avez au minimum deux vies.
Exactement. C'est une richesse incroyable de vivre, de passer jusqu'à l'âge de 25 ans au Moyen-Orient. Et depuis, je me réfugie en France, je me retrouve en France. C'est-à-dire aujourd'hui, je me considère comme un Français avec une mémoire étrangère. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est une chance et c'est une richesse.
Est-ce que ce pays, la France, est le pays où l'on peut rêver?
Je pense qu'on peut toujours rêver. Et en France, on a de la chance de rêver parce qu'on a encore un sort de démocratie, un sort de liberté d'expression. Maintenant, on est sur RFI et on dit tout ce que nous voulons. Ça n'existe pas ailleurs, au Moyen-Orient, par exemple. On n'a pas peur de la police de venir chez nous pour écraser nos rêves. Absolument, on a pas mal des défis et des difficultés en France, mais c'est à nous tous de régler ces problèmes et on a toujours la manière la possibilité de faire des associations, de manifester pacifiquement pour changer la situation. Et on peut rêver absolument.
Et vous rêvez en quelle langue?
Je rêve en français et je pense en français justement, mais je pleure en arabe.
Après une telle phrase, je vais sembler absurde, mais une petite notation dans le livre me fait dire que c'est un arabisme, je ne sais pas comment on appelle ça, déshabiller une aubergine.
Vous savez, c'est ça, intégrer les expressions de sa langue maternelle dans la langue de la terre d'accueil. Oui, ça pourrait être très arabe, ça. Oui,
déshabiller une aubergine, pour éplucher une aubergine.
Oui, justement.
Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane. Une chambre en exil est publiée chez Flammarion. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Stephen Elsley. À la réalisation, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.